J'ai un ami. Oui, j'ai un ami. Chez qui je dors quand je vais sur Paris. Qui est veuve depuis un an. Au bout de 8 ans de mariage, sa femme a été emportée par un cancer fulgurant. Donc après quelques années de vie commune. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et de ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que, avant de la connaître, sa vie était vraiment ennuyeuse. Mais maintenant, le pire, c'est que il a goûté à la vie avec elle et qu'il sait que maintenant, le reste de sa vie, ça sera sans elle. Et il est extrêmement en colère contre Dieu. Il va encore à l'église, il croit encore en Dieu, hein. Mais par contre, prier, c'est encore vraiment difficile. Vraiment difficile parce qu'il comprend pas, parce qu'elle lui manque énormément, parce qu'il pense à elle tout le temps, parce qu'il comprend pas qu'il y ait plein de couples où ça fonctionne pas, ils sont encore ensemble, alors que ça fonctionnait très bien et sa femme lui a été enlevée. Et il m'a dit que, en plus, à l'église, bah, y avait des personnes qui ont eu des mots pas très 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 malins. Et c'est un truc que j'ai remarqué avec la plupart des personnes qui ont perdu un être cher, c'est que les gens savent pas trop quoi dire et donc ils disent n'importe quoi. Par exemple, dans les semaines qui ont suivi le décès de sa femme, une personne à l'église lui a dit « Mais tu vas te remarier ». Une autre personne qui avait vécu le décès de son mari, qui avait 20 ans de plus que lui, lui a dit « De toute façon, on s'en remet jamais ». Bla, 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 bla. Il y a quelques mois, il y a une étude du Crédoc à propos du deuil qui a été réalisée. Et on a posé la question à ces personnes qui ont vécu un deuil. Certaines attitudes vous ont-elles heurté dans cette période de deuil? Souvent, 7%, parfois 22%, de temps en temps 24%, jamais 47%. Donc, en gros, la majeure partie des personnes qui ont vécu le deuil ont été heurtées par des personnes, par des attitudes. Quelles étaient ces attitudes? Humour déplacé. La plus grande, c'est utilisation de clichés pour diminuer la souffrance. Ensuite, le manque. Enfin, si on fait un classement, hein, on a, en numéro 2, on a l'incompréhension du processus de deuil vécu. En numéro 3, on a la gêne exprimée par les personnes lorsqu'elles s'adressent à moi. Après, on a le manque de soutien de mon entourage. Et enfin, on a le jugement des autres. Voilà ce que vivent les personnes qui vivent un deuil. Ça peut être un deuil ou ça peut être autre chose de dramatique, hein. Mais c'est vrai que voilà, des fois, ceux qui sont censés être proches de nous, nous font du mal. C'est une réalité, c'est la réalité que va vivre Job. Une chose dans l'article, toujours avec l'étude du Crédoc, quelqu'un dit « Notre société gomme les vulnérabilités, il est mal vu d'être fragile et de le rester. C'est probablement à cause d'un sentiment d'impuissance totale face au deuil de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est en face de nous. Comme on ne peut rien faire pour l'aider, on ne veut pas voir, ou on veut gommer. Et voilà ce qui explique le fait que parfois on est blessant envers quelqu'un qui souffre. Nous allons donc étudier les paroles de ses amis de Job. Des trois amis de Job, avec un discours dans Job 22 qui est un summum. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, voici ce qui s'est passé avant, si vous avez oublié Job, si vous êtes Alzheimer, si depuis 2 jours vous avez oublié parce qu'hier vous avez beaucoup trop bu de grenadine. Je vous rappelle ce qui s'est passé avant. Job a tout perdu parce qu'il est juste, et pas parce qu'il est pécheur. Il a tout perdu parce qu'il est juste, à cause du diable. Deuxième chose, trois amis viennent le voir pour le soutenir au départ. Et on assiste à une succession de discours et de réponses entre Job et eux. La thèse des trois amis qui viennent le voir, Dieu récompense le juste et châtie le coupable. C'est, on l'a dit hier, c'est la rétribution. Et c'est une doctrine biblique. Puisque Job est juste, Dieu le rétablira obligatoirement. Voilà ce que les amis lui disent. Dieu te rétablira. Il faut simplement que Job mette sa confiance en lui. Et en tout cas, il faut que Job soit moins excessif dans ses propos sur Dieu. Voilà ce que lui disent ses amis. Sois moins excessif. Car il faut simplement patienter pour voir que Dieu frappera les méchants et rétablira Job. Si Job est juste, il sera rétabli et les méchants seront frappés. Toujours la doctrine de la rétribution. Donc ça, c'est la thèse des trois amis. À l'opposé, il y a la thèse de Job. Je suis juste et je ne comprends pas pourquoi Dieu s'acharne contre moi. Donc, soit Dieu me fait mourir une fois pour toutes au lieu de me faire souffrir, soit il m'explique. Mais le problème, c'est qu'il reste silencieux et lointain. Il ne me dit pas pourquoi il m'arrive tout ça. Et donc Job conteste la thèse de ses amis. Les justes ne sont pas toujours heureux. Et les méchants ne sont pas toujours malheureux. Cette doctrine de la rétribution ne s'applique pas toujours. Et le passage que nous allons méditer constitue un tournant dans les discours de Job, dans les discours des amis. Alors, juste pour schématiser, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir tous les discours, on a eu le premier discours du premier ami, première réponse de Job à ami 1, premier discours ami 2, première réponse de Job à ami 2, premier discours ami 3, première réponse Job à ami 3, ainsi de suite. Voilà, après il y a eu le deuxième discours de chaque ami et la réponse de Job. Et là, on arrive au troisième cycle. Et voici les cycles des discours, comment ça se fait. Le premier cycle de discours, ce sont plutôt des encouragements. Patiente, Dieu va te rétablir. Donc ça va encore. Mais à force de résistance, quand il voit la résistance de Job, il commence à y avoir un avertissement. Attention, tu parles mal de Dieu. Attention, Job. Sois plus modéré dans tes propos, sinon il va t'arriver des problèmes. Attention. Le problème, c'est que Job persiste. Job persiste. Je veux que Dieu vienne me voir et qu'il m'explique. Et parce qu'il persiste, on arrive au troisième cycle de discours. Et là, on arrive à l'accusation. Le ton monte. C'est comme quand vous avez une conversation et que vous n'êtes pas d'accord. Au début, vous êtes un peu pondéré. Mais comme l'autre n'a pas l'air de comprendre ce que vous dites, vous commencez un petit peu à radicaliser votre discours. Et à force de radicaliser, au bout d'un moment, ça tourne carrément à l'accusation. Ça tourne. En fait, vous êtes passé de gentil et saoulant, mais plutôt gentil quand même, à finalement presque méchant. Les choses s'emballent. Et c'est ce qui va se passer dans ce discours. Et donc on va écouter ce discours d'Éliphaz de Théman. Éliphaz de Théman qui va enchaîner les accusations et vous allez voir ce qui va se passer. Donc il ne faut vraiment pas voir pour moi Éliphaz comme quelqu'un qui ne comprend pas tout ça. En fait, on arrive vraiment à la fin du cycle des discours. Donc en fait, les esprits s'échauffent. Et nous allons faire une lecture analytique. C'est-à-dire que j'ai déjà prédécoupé le discours et on va juste résumer un peu ce que dit chaque partie du discours. Est-ce que quelqu'un veut lire ces quatre premiers versets ?
Bien faire le narrateur.
Comment ?
Bien faire le narrateur.
Ah, Charles fait le narrateur. Et qui fait Éliphaz ? Éliphaz, Cécile d'Éliphaz.
Éliphaz de Théman prit la parole et dit...
Dieu aurait-il besoin des services d'un homme ? Le sage ne sert qu'à lui-même. Importe-t-il au Tout-Puissant que tu sois juste ou non ? Quel intérêt a-t-il à te voir vivre d'une façon intègre ? Crois-tu qu'il te fait de reproches, qu'il te traîne en justice pour ton amour pour lui ?
Merci. Donc ça commence bien. Eliphaz a l'air de dire à Job, tu n'es pas le centre du monde. Dieu ne fait pas particulièrement attention à toi. Voilà. Là, c'est tu te décentres. Décentre-toi. Dieu n'a pas toujours le projecteur sur toi. Ça, c'est la première chose que dit Eliphaz. Et on sait que cette chose n'est pas tout à fait juste, puisque dans le premier chapitre, justement, Dieu attire l'attention du diable sur Job. Deuxième partie. Est-ce que quelqu'un veut lire cette deuxième partie? Oui, Sébastien?
Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gains de tes frères, et de leurs vêtements, tu dépouillais les gens jusqu'à les laisser nus. Tu ne donnais pas d'eau à la soifée, et qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme violent, et tu y installais qui te favorisait. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder, et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus tout autour de toi. Voilà pourquoi soudain, tes frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te submerge?
Donc là, on passe à une deuxième phase. Non seulement tu n'es pas innocent, mais tu es coupable de ne pas assez faire le bien. Tu pourrais faire le bien encore plus, mais tu ne le fais pas. Ouais, en fait, il y a un tout petit peu, tu faisais le mal, mais il y a aussi vachement, tu ne faisais pas ce que tu aurais pu faire. Tu ne donnais pas d'eau à la soifée. À qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme violent. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Voilà. Ta souffrance est explicable. Tu aurais pu faire les choses bien. Mais en fait, parce que tu n'as pas assez fait de choses bonnes. Eh bien, voilà, Dieu te punit. Tu es coupable. Tu es coupable. 12 à 14. Ignace.
Dieu n'habite-t-il pas, tout là-haut dans le ciel? Voilà la voûte étoilée comme elle est élevée. Mais toi, tu dis, Dieu, que peut-il savoir? Peut-il exercer la justice à travers les nuées? Les nuages le cachent? Et il ne peut pas voir, tandis qu'il se promène sur le contour du ciel.
Donc là, Eliphaz est en train de dire à Job, mais ne crois pas que Dieu ne voit rien. Ne crois pas que Dieu ne voit rien, Dieu voit tout. Et là, en fait, on voit qu'il déforme les propos précédents de Job. Job n'a jamais dit qu'en fait, Dieu ne voyait rien. Il disait surtout qu'en fait, Dieu ne lui expliquait pas. Et que Dieu était presque insensible à sa souffrance. Et Eliphaz, du coup, déforme ses propos en disant, bah, tu crois que Dieu ne voit rien, mais en fait, il voit tout. Il voit tout. Donc, en fait, il sait exactement tout ce que tu dis. C'est pas la peine de dire tout ce que tu dis à Dieu. C'est pas la peine de te répandre en paroles comme ça, à convoquer Dieu et à lui montrer, en fait, à quel point tu es malheureux. Dieu le voit déjà. Ça sert à rien. C'est du verbiage. Il connaît déjà les choses. Mais sauf que Job ne veut pas particulièrement que Dieu l'entende. Il veut plutôt que Dieu lui parle. C'est ça la différence. On passe à une autre phase, 15 à 18.
Tiens-tu donc à rester sur cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal, qui prématurément sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule? Eux qui disaient à Dieu, éloigne-toi de nous, et que pourrait nous faire le Tout-Puissant? Et pourtant, ils comblaient leur maison de bien-être, mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils.
Donc là, Eliphaz prévient Job. Arrête de parler comme les méchants. Arrête de parler comme les méchants. Tu vas vraiment avoir des problèmes. Tiens-tu à tenir le discours des gens qui ne sont pas sages, des païens? Tiens-tu vraiment à aller sur cette voie-là? Et en fait, c'est des questions rhétoriques. Tu es déjà sur la voie des méchants, par ton discours, par ton outrecuidance à accuser Dieu. Tu es déjà sur le chemin des méchants. Et donc, attention, tu seras retranché, prématurément. Tu vas vraiment mal finir à force de parler comme ça. La suite ? Il y en a encore après. Hein. Mais...
Car les justes verront la ruine et se réjouiront. Ceux qui sont innocents les railleront en disant « Voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ce qui restait d'eux, le feu l'a dévoré. Accorde-toi donc avec Dieu, fais la paix avec lui. Ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Dieu Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu feras disparaître le crime de ta tente. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir au caillou du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent, car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant et tu lèveras le visage vers Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera. Tu l'acquitteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu les relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Il délivrera même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pures que cet homme sera sauvé.
C'est beau ça, non ? C'est beau ! Il lui dit, repens-toi, fais la paix avec Dieu, et tu connaîtras à nouveau le bonheur. Et non seulement tu connaîtras à nouveau le bonheur, mais tu pourras le partager à tout le monde. Ce chapitre 22, en lui-même, contient des propos que nous pourrions tenir à quelqu'un. Il n'y a rien de faux. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à la manière dont on parle à Dieu. Il ne faut pas pécher. Il faut faire la paix avec lui. Il faut s'attendre à lui. Il faut comprendre qu'il est tout-puissant. Voilà ce que dit Eliphaz. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Le problème, c'est que nous sommes devant un mélange de vérité et de mensonge. C'est assez rare quand même qu'on nous raconte des purs mensonges, ou que les choses qu'on nous dit sont totalement mauvaises. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est un mélange. La vérité qui est mêlée au mensonge. Oui, Dieu est très élevé au-dessus de la terre. C'est vrai. Mais il n'est pas indifférent au sort des hommes. Il est même particulièrement attentif à la vie des hommes et à la vie de certains hommes. Et on l'a vu hier avec Abraham et sa lignée, et toute sa lignée. Dieu, bien sûr, est très élevé, mais il fait attention aux hommes. Et donc, Job peut attirer l'attention de Dieu sur lui. Ce n'est pas du narcissisme, c'est que Dieu fait attention à lui. Oui, Job n'est pas parfait, et il n'a jamais affirmé qu'il l'était. Mais ici, on l'accuse. Alors que, dès le prologue du livre, on sait que Dieu le considère comme très juste. Il n'est pas parfait, mais il est juste. Et là, Eliphaz se trompe en l'accusant de choses qu'il n'a pas faites. Puisque Dieu, malgré tout ce qu'il n'a pas fait, car on peut toujours faire plus de bien que ce qu'on fait, même s'il n'a pas fait tout le bien qu'il aurait pu faire, Dieu le considère comme très juste. Eliphaz a raison de rappeler que Dieu sait tout. Mais il déforme les propos de Job. Job n'a jamais dit que Dieu ne savait rien. Il a surtout dit que Dieu était injuste. Dieu est injuste. Et là, au fur et à mesure du discours, on se rapproche du vrai problème. Job ressemble trop aux méchants qui se rebellent contre Dieu. Voilà le vrai crime de Job aux yeux de ses amis. Pourtant, Job ne se rebelle pas contre Dieu. Il affirme que c'est Dieu qui se rebelle contre lui. C'est un peu le contraire, vous voyez ? Mais pour les amis, c'est de la rébellion de sa part. Et en fait, dans tous ses discours, Job dit, mais pourquoi est-ce que tu m'accables ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi pourquoi tu t'acharnes contre moi. L'appel à la repentance et le rappel de la justice de Dieu qui rétribue les méchants et récompense les fidèles, tout ça c'est vrai, tout ça c'est bon, tout ça c'est vraiment bien marqué dans la Bible. Mais la rétribution, c'est juste une doctrine qui n'est pas applicable à la situation de Job. C'est une doctrine qui est inadaptée à la situation de Job. Et heureusement qu'il y a le chapitre 1, parce que du coup, on le sait à chaque fois. On se dit, voilà, ils disent des trucs, et les trucs sont vrais. Fondamentalement vrais. Mais pour Job, bah, c'est fondamentalement faux. Et finalement, le vrai problème, donc, c'est que Job accuse Dieu. Et c'est ce qui exaspère Eliphaz et les deux autres. C'est ce qui les pousse à devenir accusateurs, alors qu'au départ, ils étaient plutôt encourageurs. C'est que Job n'adopte pas une attitude qu'il juge sage. Job devrait arrêter de se plaindre de Dieu. Job devrait avoir confiance en la justice de Dieu qui le récompensera. Job devrait être plus humble et arrêter de vouloir entrer en procès avec le Dieu parfait. Et ils lui disent, mais tu vas finir par t'attirer des vrais problèmes. Arrête, tais-toi. Et s'il pouvait le bâillonner, il le bâillonnerait. Je pense qu'Eliphaz ne veut pas l'acculer, mais qu'il emploie la méthode forte pour qu'il la ferme, une fois pour toutes. Il prend tous les arguments à sa disposition, quitte à déformer les choses, quitte à grossir le trait. Et Job prend la voix des méchants pour lui. Pour lui, vraiment, c'est insupportable de voir son ami divaguer à ce point. Alors, les amis se font les avocats de Dieu, afin de ramener Job à des propos politiquement corrects. Voilà, je pense que les trois amis sont les avocats de Dieu, et c'est assez logique dans un débat, puisque quand même, le discours de Job est un peu un discours quand même assez accusateur envers Dieu, donc forcément, quand il y a un procureur, il y a des avocats. Mais en fait, c'est le combat de la théorie contre la pratique. Job va leur dire plusieurs fois qu'ils sont de piètres amis. Parce que, n'oublions pas, qu'il s'adresse à un proche qui a perdu ses biens, ses enfants, et qui agonise d'une maladie qui ne le tue pas. Eux, ils savent ce qu'il faut dire. Mais Job, au cœur de sa souffrance, se fiche du politiquement correct, se fiche de ce qu'il faut dire. Tout ce qu'il réclame, c'est la présence de Dieu. Voilà ce qu'il réclame. Il a besoin que Dieu lui explique ce qu'il est en train de faire avec lui. Ses plaintes ne sont pas de la rébellion, mais simplement la preuve de sa relation avec Dieu. Les amis disent des choses vraies à propos de Dieu. Mais elles ne sont que théoriques. Dieu récompense ses fidèles. Mais pourtant, certains comme Job subissent des épreuves insupportables. Dieu châtie les méchants. Pourtant, beaucoup prospèrent pendant toute leur vie. La sagesse de Dieu est infiniment plus grande que celle des hommes. Pourtant, Dieu se révèle et explique ses plans. On peut toujours trouver des torts à quelqu'un. Pourtant, Dieu juge que certains sont plus justes que d'autres parce qu'ils marchent avec lui. Ce sont des personnes selon le cœur de Dieu. Finalement, en encourageant Job à adopter une piété formaliste, une posture de piété, une piété feinte, eh bien, Eliphaz le tente. Eliphaz l'incite à s'éloigner de Dieu. Dans toute la Bible, les personnes les plus proches de Dieu osent se plaindre à lui. Abraham, Moïse, David, Jérémie, Jésus, ose se plaindre à Dieu. Ose lui demander d'intervenir. Ose négocier avec lui. le passage de Genèse, le passage qui suit la visite des trois hommes à Abraham. On a affaire à une négociation entre Abraham et les trois hommes. Et Abraham négocie uniquement pour Lot, qui est à Sodome. Et c'est vraiment intéressant. Et en fait, clairement, Dieu veut qu'Abraham négocie avec lui. Et en fait, on voit ce genre de relation comme ça, entre Dieu et ses serviteurs. Dieu aime ça. Quand on se plaint, quand on lui demande d'intervenir, quand on négocie avec lui, Dieu aime ça. Quand tout cela est fait dans une optique relationnelle saine. J'insiste bien, dans une optique relationnelle saine. Pas pour manipuler, pas dans un but égoïste, pas pour manifester un manque de foi, mais parce que c'est la présence du Seigneur qui donne du sens à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on vit. Tous ces gens, selon le cœur de Dieu, faisaient tout cela, parce qu'en fait, on fait cela avec n'importe qui avec qui on a une relation. Et c'est la manière dont Jésus va juger les hommes de son temps qui nous éclaire le plus. Les pharisiens bien pensants, ceux qui étaient politiquement corrects et qui disaient et qui faisaient les bonnes choses. Pour Jésus, ce seront le symbole de ceux que Dieu ne connaît pas. Alors que les disciples qui ne comprennent pas, qui chutent, qui font des erreurs, qui le renient, comme Pierre, ou qui le combattent, comme Paul, eh bien eux, ils seront justifiés par lui. Dire des choses justes sur Dieu, faire des choses justes que Dieu approuve, ça n'a aucune utilité si l'on n'a pas de relation avec lui. Voilà l'énorme enseignement de Jésus qui confirme finalement, en fait, je trouve, l'enseignement de l'Ancien Testament. Dire des choses justes sur Dieu, faire des choses justes que Dieu approuve, ça n'a aucune utilité si l'on n'a pas de relation avec lui. C'est la relation qui prime. Et c'est ce que les pharisiens n'avaient pas compris. Jésus a été extrêmement clair là-dessus. Lui, qui a été Dieu parmi nous pour rétablir cette relation. La thématique de la relation est vraiment capitale dans la Bible. Jésus n'est pas venu sur terre pour que les humains arrêtent de pécher, mais pour qu'ils se consacrent à lui et à l'avancement de son royaume. Vous êtes-vous déjà dit ce genre de choses ? Jésus n'est pas venu sur terre pour que les humains arrêtent de pécher. Il aurait pu venir sur terre et dire, voilà, on va faire un truc, je vais mettre tous mes pouvoirs en place pour que vous arrêtiez de faire n'importe quoi. Et non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et même pour ceux qui lui appartiennent aujourd'hui, c'est-à-dire nous, nous péchons encore. Enfin, en tout cas, personnellement, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je pêche encore assez régulièrement. Et Dieu n'a pas choisi de nous faire arrêter de pécher sur cette terre. Le Saint-Esprit est assez fort, normalement, hein, pour qu'on arrête de pécher. Enfin, il pourrait y avoir vraiment quelque chose de puissant. Il aurait pu aussi nous ressusciter assez rapidement. Tous nous faire mourir et ressusciter comme ça. Poum, poum. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Son but à Jésus, c'était de que nous soyons consacrés pleinement à Dieu et que nous fassions avancer son royaume. Et même avec le Saint-Esprit, les chrétiens pêchent, mais ils lui appartiennent et ils vivent avec lui. Le but du Saint-Esprit, c'est que Dieu mette son tampon. Il m'appartient. Nous pourrions tous avoir des t-shirts. Propriété de Jésus. Propriété de Jésus. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il n'annule pas notre péché, mais il nous fait appartenir à Jésus. On pourrait même pousser jusqu'à dire qu'il vaut mieux pécher avec Jésus qu'être juste sans lui. qu'être juste sans lui. Et en fait, c'est pas facile d'être juste sans lui. Hein. C'est une petite construction un peu marrante. Parce que finalement, les pharisiens se croyaient justes, mais ils n'étaient pas justes. Et finalement, en fait, on se croit juste parfois quand on fait ou quand on dit les bonnes choses. Mais en fait, Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu attend que nous soyons en communion avec lui et en relation avec lui. Les amis de Job disent des choses vraies à propos de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des pharisiens avant l'heure et le symbole d'une piété factice. Voilà leur problème. Application, et j'en ai trois. Il faut être vrai avec Dieu. Quitte à aller un peu trop loin, ça ne veut pas dire pécher en se disant que Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu veut notre sanctification et il déteste le péché. Il déteste le péché, mais aussi il ne supporte pas le mensonge. Il ne supporte pas la comédie. Vous savez pourquoi il ne la supporte pas ? Bah parce qu'en fait, il voit tout de suite ce qu'il y a derrière. Et il voit pourquoi nous mentons et pourquoi nous jouons la comédie. Et quelque part, on est vraiment stupide parfois quand nous jouons la comédie parce que Dieu n'y croit pas une seule seconde. Dieu veut que nous regardions la vérité. Il veut que nous regardions notre état en face et que nous lui remettions chaque situation pour le laisser agir. La politique de l'autruche, qui consiste à mettre la tête dans le sable et en se disant « Hop là, plus rien n'existe », c'est absolument stupide pour plusieurs raisons. Parce que déjà Dieu sait exactement ce qui se passe même quand on a la tête dans le sable. Que nous, quand on a la tête dans le sable, on sait aussi ce qui se passe. Et qu'en n'en parlant pas à Dieu et en regardant les choses en face, les choses ne s'arrangent pas. Utilité de ne pas regarder les choses en face, utilité nulle. Parce que nous voulons que Dieu agisse dans nos vies, non ? Jésus veut se battre à nos côtés. Jésus veut se battre à nos côtés. Et si nous voulons remporter des victoires, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Il faut être comme Job. Il ne faut pas tricher. Il y a peu de temps, un vieux psychologue, un psychologue à la retraite, lors du réseau des évangéliques en sciences humaines, me disait que le plus grand enseignement de sa carrière de psychologue, c'est que le préalable à tout progrès intérieur, c'est l'acceptation de son état. Les gens qui n'avançaient pas au bout de plein de séances, c'est parce qu'en fait, ils étaient dans le déni de leurs problèmes. On ne peut pas progresser si on ne regarde pas les problèmes en face. En psychologie, et au niveau spirituel, c'est pareil. Aucune chance d'aller mieux sans honnêteté. Donc, il faut être vrai avec Dieu, il faut être comme Job. Deuxième enseignement pratique. Devant quelqu'un qui souffre, il faut la fermer. Et écouter. C'était les premiers versets du chapitre 1. Au départ, pendant 7 jours, les amis se taisent et pleurent avec leur ami. Et là, c'était bien. C'était bien. Ils ont bien réagi. C'est quand ils ont commencé à parler que ça a commencé à mal se passer. Quelqu'un qui souffre depuis longtemps, qui ne voit pas d'issue, qui se lamente, c'est dérangeant. Quand soi-même, on va bien. On va plutôt bien. On aimerait bien que les choses changent. On est tenté de donner des recettes, de s'attendre à des efforts de la part de celui qui souffre. Et on est en plus tenté de s'attendre à des résultats. Suis ma recette, persévère et prie, et j'espère que la semaine prochaine ça va aller mieux. Parce que si la semaine prochaine ça va pas mieux, ça veut dire que tu t'es un petit peu endurci ou que t'as pas obéi. Parce que c'est quand même insupportable de semaine en semaine de voir quelqu'un qui ne va pas bien et qui n'a pas l'air de progresser. Oh là là, oui, c'est vrai. Ah, cette personne. Elle souffre depuis tellement longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? On est tenté de tout ça. La plupart du temps, parler, c'est prendre le risque de jouer le rôle des amis de Job. Il vaut mieux écouter, poser des questions, essayer de comprendre et prier avec la personne. Voilà le truc utile, c'est de laisser l'occasion à la personne qui souffre de s'exprimer, de dire tout ce qu'elle veut, absolument tout ce qu'elle veut. Quand mon ami disait « je suis vraiment en colère contre Dieu », je peux même plus prier. Je me suis dit, c'est le signe qu'il a encore une relation avec Dieu, puisqu'il est en colère contre lui. On a parlé, je lui ai posé des questions sur comment il avait vécu les choses. Et à la fin, je lui ai dit, j'imagine que t'as pas envie que je prie. Il m'a dit, bah non. Mais par contre, tu peux prier pour moi à un autre moment. Mais là, si tu pries, bon bah, je vais te laisser parler, hein, mais moi, je vais pas m'associer à ta prière. Je lui ai dit, d'accord. Donc je ne vais pas prier. Mais je l'ai écouté pendant longtemps. Et je suis retourné chez lui et je l'ai encore écouté. Parce que finalement, bah, c'est son expérience. Et son expérience, c'est pas la mienne. Mais en fait, on s'en fout. Moi, je suis enrichi de son expérience. Et de voir en fait comment il progresse. Comment il y a certains trucs qu'il ne comprend toujours pas. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et dans l'optique de Job, c'est vraiment génial. Parce que finalement, en fait, on a deux oreilles. On a deux oreilles, il faut vraiment qu'on s'en serve. Et une seule bouche. Voilà. Il faut vraiment écouter. Écouter, comprendre. Écouter et comprendre. Parce qu'en fait, on peut écouter sans comprendre. Hein. Écouter et poser des questions. Avec la bouche, je pense qu'il faut poser des questions pour comprendre encore plus. Il n'y a pas de vraies questions taboues. Je pense qu'on peut vraiment poser des questions. Par contre, il faut vraiment éviter les recettes. S'encourager les uns les autres commence souvent par l'écoute, pour savoir quoi dire ou ne pas dire. Plus vous écoutez ce qu'une personne dit, plus vous allez savoir ce qu'il ne faut pas dire ou ce qu'il faut dire. Plus vous allez avoir une réponse adaptée. Et souvent quand même le réflexe que j'ai constaté de beaucoup de personnes, c'est devant une situation qui les dépasse, au lieu d'écouter, ils sont atteints d'une sorte de diarrhée verbale. Et ça y va, ils disent des choses. Et en fait, mais taisez-vous. Écoutez uniquement ce qu'on a à dire. J'ai pas été dans une situation de deuil, j'étais dans une autre situation. Mais en fait, avec ma femme, on n'a jamais parlé de notre problème à notre église pour pas qu'on nous gave. Pour pas qu'on nous gave de conseils, pour pas qu'on nous gave d'une attitude un peu bizarre, en regardant un peu, oh là là, les pauvres, je sais pas quoi. Petit passage d'une guêpe. Tu t'en vas? Non, c'est pas grave. Et en fait, on en a parlé à d'autres personnes qu'on jugeait plus aptes à écouter, plus aptes à éprouver une compassion saine, un regard un peu neutre, compatissant, mais en même temps où on n'attend rien. Voilà. Et il faut peut-être aussi choisir les personnes à qui on se confie quand on souffre, pour vraiment choisir des personnes qui seront capables d'écouter.
C'était des gens du GBU.
Ouais. Oh, tu te calmes. Mais alors, je viens de me faire profondément agresser par une guêpe. Voilà. Heureusement, c'était le bon côté de la guêpe, apparemment. L'apôtre Paul nous dit de nous encourager les uns les autres, mais aussi de prendre le temps de pleurer avec celui qui pleure, en même temps que rire avec celui qui est dans la joie. Vous avez remarqué, hein, dans une église, c'est normal, vous avez, je sais pas, 50, 100, 200, 300 personnes. Et forcément, en fait, vous parlez de l'évangile, vous chantez des chants, et vous pouvez pas chanter des chants qui soient adaptés à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui passent par de la souffrance, et eux, ils ont envie de pleurer, et il faut pleurer avec eux, même si vous n'avez pas envie de pleurer, mais vous pleurez parce qu'ils pleurent, parce que vous êtes solidaires. Et il y a aussi des gens qui rient, il faut être dans la joie, il faut rire avec eux. Vous pouvez même pleurer de rire, si ça vous amuse. Avec eux, parce qu'en fait, ils sont aussi dans la joie. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce qu'en fait, toutes ces situations sont des situations vraies, situations qu'il faut vivre pleinement. Et il n'y a pas de problème à embrasser comme ça deux vérités si différentes. Dans une église, ces deux états peuvent se vivre en même temps. Dernière application. Dieu use de traitements particuliers avec chacun de ses enfants. Dieu ne nous traite pas tous de la même manière. Il respecte le rythme de chacun, le caractère de chacun. Tout le monde regarde de l'autre côté, je ne sais pas où. Il utilise des moyens adaptés à notre personnalité. Et c'est vrai que c'est souvent une erreur qu'on fait, de croire que notre situation va pouvoir être plaquée sur la situation de l'autre. De croire que ce qui a marché avec nous va marcher avec l'autre. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu, comme un bon père, use de moyens différents avec chacun de ses enfants. Ce qu'ont peut-être pas fait d'ailleurs nos propres parents. J'insiste, Dieu est un bon père. Qui respecte notre rythme et notre caractère. Il faut donc à tout prix éviter de projeter notre vécu sur les autres, car il y a de fortes chances qu'on fasse comme les amis de Job, un mauvais diagnostic qui entraînera de mauvais conseils, voire des accusations stupides. Alors vous voyez, Job peut vraiment être un exemple d'honnêteté et de recherche de relations vraies avec Dieu. Et ces trois amis veulent vraiment mettre devant nous un grand panneau « Attention, attention à ce que vous dites aux personnes qui souffrent. » Je répète, hein, devant quelqu'un qui souffre, il faut la fermer et écouter. Et faudrait que j'ajoute aussi « Prier avec et prier sans. » Voilà la bonne attitude devant quelqu'un qui souffre. Je vous invite à prier. Merci notre Père, parce que dans ta parole, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle, nous apprenons que tu es un Dieu profondément relationnel. Et c'est vraiment merveilleux parce que tu ne nous demandes pas de jouer la comédie. Tu ne nous demandes pas d'appliquer des recettes, tu ne nous demandes pas de faire des trucs qu'on ne comprend pas, mais juste parce que tu ne vas pas nous foudroyer. Tu ne nous demandes pas d'être des petits enfants sages, modèles, des petits pharisiens qui peuvent se la péter. Merci Seigneur, parce que tu nous demandes d'être nous-mêmes, devant toi, avec les défauts et les qualités que nous avons. Et nous pouvons te parler en Jésus. Nous pouvons te dire tout ce que nous pensons, parce que tu sais déjà d'avance ce que nous pensons. Nous pouvons être vrais avec toi. Et nous te remercions parce que tu es vraiment un Père absolument merveilleux, qui est là pour nous relever, qui est là pour nous édifier, et pas du tout pour nous punir, ou nous écraser, ou nous accuser. Merci Seigneur, parce que voilà, tu es le juste juge qui nous a envoyé un avocat pour nous innocenter. Seigneur, nous voulons que ta vie, que notre vie, pardon, te glorifie. Nous voulons te faire plaisir. Nous voulons être là pour toi et faire avancer ton royaume. Et tu vois nos problèmes. Et nous voulons te les remettre. Nous voulons regarder les choses en face. Aide-nous, Seigneur, à toujours approfondir cette relation que nous pourrons avoir avec toi. Et enfin, aide-nous à être des frères, des sœurs, vraiment encourageants avec nos frères et sœurs. Aide-nous à écouter, aide-nous à dire des paroles adaptées, des paroles qui relèvent, des paroles qui élèvent, des paroles qui rejoignent ceux qui sont autour de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu te serves de nous pour faire du bien à nos frères et sœurs. Et nous savons que par notre nature humaine, nous n'y arrivons pas. Et c'est pourquoi nous faisons vraiment appel à ton Saint-Esprit, pour qu'il nous guide et qu'il nous donne les bonnes paroles. Nous voulons vraiment imiter ton Fils Jésus. qui faisait vraiment toujours tout de la bonne manière et dans le bon but, parce qu'il faisait les choses en communion avec toi. Aide-nous à être comme Jésus, c'est notre prière en son nom. Amen.
Amen.
C'est maintenant le moment des annonces, peut-être, je pense.
Quelques annonces. Et nous allons commencer par une annonce d'envergure internationale par Léa.
Et alors, si vous connaissez les J'ai vu Avangelo, je vais mettre le droit de mot parce que ça me intéresse. C'est une chose sur mon nom. Qui s'appelle donc IFES, et donc il y en a partout dans le monde. Et en Europe, du coup, on fait une grande conférence, donc c'est un peu comme un plateforme, mais avec beaucoup plus de personnes.